bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission. L'invité du jeudi, aujourd'hui nous allons accueillir dans quelques instants Florence Roche, bien connue bien sûr pour son dernier roman « L'orpheline des Sœurs de la Charité » aux Presses de la Cité. Aujourd'hui donc notre invité du jeudi, Florence Roche, « L'orpheline des Sœurs de la Charité », on la retrouve dans quelques instants.
Lola, Lola, Lolita, conmigo, Lola, vas a acabar.
Voilà, notre invité du jeudi aujourd'hui est Florence Roche pour son dernier roman, L'orpheline des Sœurs de la Charité. Eh bien, retour tout de suite Florence. Florence, bonjour.
Bonjour.
Alors Florence, un dernier roman. Alors c'est vrai que, bon, je ne sais plus à combien en est Florence de romans, mais il y en a quand même eu pas mal d'écrits depuis.
Mais moi, on est presque à une vingtaine, je crois que c'est le 19e, quelque chose comme ça.
D'accord, bon,
ouais,
voilà.
À la louche.
À la louche, ouais. Alors, pour rappeler un peu pour ceux peut-être qui connaissent pas encore Florence Roche, je dois être pas bien nombreux, mais il y a toujours des nouveaux qui arrivent dans notre département et au-delà. Florence est professeure en lycée, c'est ça, Florence, t'es professeure d'histoire.
Professeure d'histoire, ouais.
D'accord.
Pour le puits. Ouais. Au collège,
la famille. T'es en collège.
Ouais.
Alors, Florence Roche, eh bien, c'est énormément de livres. Alors, les derniers, peut-être les plus, L'honneur des Boris, La réfugiée du domaine, Auprès de la cité, Les parfums d'Iris, Les carnets d'Esther, L'héritière des anges et Le pensionnat de Catherine. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, Florence, que toi, tu as un petit côté féministe, quand même, parce que tous tes romans, y a toujours une jeune fille ou une jeune femme dedans.
Eh bien, alors, c'est vrai qu'on me le dit souvent, et pourtant, pour me sauver, je mentionne quand même que dans Le pensionnat de Catherine, le personnage de Samuel est très, très présent, omniprésent, et il y a certains de mes bouquins un petit peu plus anciens, mais notamment celui qui était sorti chez Kallmann en 2017, L'école du lac, où là, vraiment, mon personnage principal, c'est Garance, qui est un homme, un instit, et dans La trahison des comtes, ça c'est un peu plus vieux, c'était à mes débuts quand j'étais encore chez De Bourré, là aussi, je suis dans la peau, je me transporte, on va dire, forcément, dans la peau d'un jeune éducateur. Donc, pas systématiquement, mais souvent, effectivement, en tout cas, je parle d'héroïnes qui sont des femmes, parce que, bien sûr, la cause des femmes, des opprimées en général, d'ailleurs, me touche énormément.
C'est peut-être un peu la fibre féminine, ça s'expliquerait comme ça.
Oui, voilà, je pense. Après, quand je parle des opprimés, c'est vrai que, tu sais, Jean-Pierre, que dans mes bouquins, il y a toujours un apport, on va dire, historique.
Oui.
C'est vrai que, par exemple, dans La réfugiée du domaine chez Kamal Levy, j'ai parlé du génocide arménien. Alors, je rebondis dessus parce que quand j'entends Erdogan qui, aujourd'hui, nous critique, nous, la France, comme étant effectivement un pays trop libertaire qui laisse faire des caricatures du prophète. Il faut quand même savoir qu'Erdogan n'a jamais reconnu qu'en 1915, il y a 1 million d'Arméniens qui se sont fait massacrer en Turquie. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'aborde dans La réfugiée des domaines parce que, comme je fais dans Le prochain de Catherine, par exemple, en parlant aussi des passeurs pendant la Seconde Guerre mondiale, tu sais, tu m'avais interviewé, voilà, il y a quand même toujours un apport historique. Mais là, quand même, je voulais le placer, mon Erdogan, parce que franchement, ce qu'il met dans la tête de la France et ce qui se passe actuellement, ça me rend folle.
Oui, c'est sûr. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça ferait l'objet d'une autre émission, peut-être.
Tout à fait.
Alors, on va parler de l'orpheline des Sœurs de la Charité. Donc, ton orpheline, c'est Mathilde. Alors, tu nous dis qu'elle a grandi dans le pensionnat des Sœurs de la Charité au Puy-en-Velay. C'est un pensionnat qui existait ou qui a été inventé ?
Non, alors en fait, elle est élevée, si tu veux, là où autrefois était l'hôtel Dieu. En fait, l'hôtel Dieu qui a été maintenant magnifiquement rénové et tout, c'était en fait un hôpital général, ouais, qui a pris ses parties sur Hénéro. Ouais. À l'époque, c'était tenu effectivement par soit des donates, qui étaient des femmes laïques mais qui restaient célibataires, soit des sœurs de la charité qui servaient d'infirmières en fait. Pour les gamins qui étaient orphelins et puis pour les malades.
Alors on va voir que c'est une histoire quand même assez compliquée, hein, ben, comme toujours. Hein. Donc là on est dans les années 1900, hein, puis tu situes l'action en 1913. Et donc en se promenant, eh bien, Mathilde croise Armand, qui est le fils d'une famille très prospère, les Josserand. Alors comme parfois, hein, ça arrive même assez souvent, c'est le coup de foudre. Mais bon, ça va pas se passer comme ça, puisque les parents du jeune homme vont tout faire pour que Mathilde ne se rapproche pas d'Armand, puisque Armand, on sait que dans les grandes familles d'antan, il était promis en une autre, mais on va se rendre compte que Mathilde n'est pas qu'une simple lingère. Puis surtout, elle a un secret. Elle est la fille d'une criminelle, enfin c'est ce qu'on nous dit, Lise Leclerc, qui est condamnée au bagne pour le meurtre de 4 personnes. Alors Mathilde ne doit peut-être pas passer à côté du bonheur, hein, c'est ce qu'on pense, et elle voudrait faire la lumière sur son passé, donc elle se lance dans une quête effrénée, et bien sûr pour comprendre pourquoi sa mère, à 20 ans auparavant, avait commis cet acte, hein, et elle va essayer de démêler cette histoire, hein, quelle fut la vie de sa mère, en fait, Lise Leclerc. Alors là, tu nous emmènes là dans un roman, ça paraît très très compliqué, hein, parce que elle est orpheline. Elle est dans un pensionnat, elle tombe amoureux, ils tombent amoureux réciproquement l'un de l'autre, mais dans tout ça, eh bien, ça va pas être aussi simple que ça. Donc, pour vivre cette histoire d'amour.
Oui, en plus, la famille d'Armand reproche justement à Mathilde d'être la fille de Lise Leclerc, hein, cette femme qui, 20 ans auparavant, a assassiné effectivement une bonne sœur, un prêtre, un notable et un homme de droit, quoi, un avocat. Donc ils s'en servent pour essayer d'écarter Armand de Mathilde, et c'est pour ça qu'elle veut faire la lumière là-dessus. Et puis il y a eu aussi des petites choses qui l'ont titillé, auxquelles elle pense, c'est que ses filles de la charité, les sœurs de la charité, une ou deux fois, sans lui dire, hein, qu'elle était la fille de Lise Leclerc, parce qu'elle le trouve toute seule, ça. Mais deux, trois fois, elle a entendu ses filles de la charité dire, ah ben Mathilde, tu seras aussi belle que ta mère, j'espère que ça te portera plus de chance. Enfin, elle les entend parler souvent, quand même, de sa maman, Lise Leclerc. Elle est enfant, elle comprend pas, mais souvent, quand même... Le lecteur comprend que Lise Leclerc, elle est passée aussi, en fait, entre les mains des filles de la charité, qui effectivement lui ont sauvé la vie à un moment de son existence, d'où le fait qu'elle ait laissé d'ailleurs Mathilde chez elle, quoi. Mais disons qu'elle sent qu'il y a quand même des choses à fouiner dans l'enceinte même, en fait, de l'hôtel Dieu, quoi.
Oui, alors bon, ça va être un peu la trame de tout ce roman. Bon, elle est déjà orpheline, hein, ce qui est jamais bien marrant, hein, quand on a ni père ni mère, qu'on se retrouve comme ça à la rue, on peut le dire. Alors on comprend pourquoi elle est devenue orpheline, puisque sa mère est partie au bagne. Mais c'est vrai que c'est un personnage, quand on est orphelin ou orpheline, c'est jamais simple, on n'a pas de famille ou on connaît pas sa famille, et c'est toujours très compliqué, hein, même en temps normal.
Tout à fait, ouais, ouais. Après, elle tombe quand même, je dirais, sur des hommes et des femmes qui sont sympas après avec elle. C'est-à-dire que je voulais pas non plus que ce soit complètement manichéen, les méchants, et puis elle, la pauvre petite fille. Elle est vraiment après bien entourée, puisqu'il y a cette Madame Labaume qui aurait connu Leclerc, qui va bien s'occuper d'elle. La lingère qui va l'employer va être super sympa avec elle. Enfin, voilà, il y a quand même pas que... des gens atroces qui lui veulent du mal autour d'elle, quoi. Elle va vraiment, même elle a même des amis, hein, beaucoup d'amis, on la sent quand même assez dans la résilience, quoi, en quelque sorte.
Oui, ben, disons que c'est quelqu'un peut-être qui sait se faire aimer des autres aussi, hein, et puis bon, ben, qui se réfugie auprès de ces personnes qui l'écoutent, hein, qui
Oui,
bon,
il
vont
la
essayer
juge
de
pas.
la faire partir dans la vie, mais comme il faut. Donc il y a cette histoire avec Armand qui pourrait être un beau roman, hein, un beau roman d'amour, mais malheureusement, il va y avoir une entrave. Et c'est ça un petit peu qui va pousser Mathilde à savoir ben, pourquoi sa maman a fait ça. Si elle a tué quatre personnes, c'est quand même pas. Il y a sûrement une raison au fond.
Et disons, voilà, c'est là peut-être mon côté un petit peu fibre féminine, c'est-à-dire que c'est quand même, les femmes criminelles, c'est rare, d'autant plus qu'elle les abat au pistolet, elle pose l'arme, elle se rend. C'est-à-dire que Lise Leclerc, voilà, elle est rentrée dans un club, en fait, ils étaient en train de jouer aux cartes, là, les quatre en question, enfin, pas la bonne sœur, hein, la bonne sœur, elle l'a tuée avant. Et puis après, elle rentre dans ce club libertin d'hommes, et puis, paf, 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 elle les abat, elle pose l'arme, puis elle se rend. Et elle se défend pas au procès, elle dit rien.
Oui, alors c'est ça qui est complètement étrange quand même, hein, de ne
C'est
pas essayer
ça,
de se
ouais.
défendre, parce que si elle a oxy ces quatre personnes, c'est que sûrement elle avait une raison. Bon, la sœur, on peut imaginer, hein, je dis bien, on peut imaginer, puisqu'elle aussi était dans l'orphelinat, en fait, hein,
Oui,
si on se rapproche.
Justine, c'était en fait Justine, la sœur qui a été abattue par Lise. C'est le premier indice en fait qui met un peu Mathilde dans le doute, c'est que sœur Justine est vraiment celle qui a sauvé la vie en fait à Lise Leclerc. Lise Leclerc qui était très très mal à un moment parce qu'elle a eu un enfant mort-né, elle s'est retrouvée complètement à la rue et c'est sœur Justine et les filles de la charité qui l'ont sauvée. Elle fait partie un peu de la famille quoi. Donc ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, Mathilde, c'est pourquoi sa mère quand même aurait tué sœur Justine quoi, qui lui avait sauvé la vie vraiment. Qui était comme sa sœur.
Oui, alors bien
Et à
sûr.
partir de là,
Oui, ça ajoute à l'intrigue, quoi, hein.
c'est ça, ouais, elle comprend pas. Et en fait, bah, on comprend bien que c'est une histoire de vengeance, mais en fait, il y a Lise fait deux vengeances. Et moi, le but, quand j'ai fait la trame de ce bouquin, c'est que le lecteur et la lectrice ou la lectrice se demandent toujours. Mais bon sang, qui est-ce qu'elle a vengé? Est-ce qu'elle s'est vengée elle-même? Est-ce qu'elle a vengé sœur Justine, qui finalement n'aurait pas été tuée par Mathilde, mais par les trois Lascars qu'elle aurait ensuite descendu? Enfin, voilà quoi. Et à la fin, il y a encore un revirement final, quoi. Mais on est bien conscient dès le départ, enfin, comme j'ai écrit le bouquin, que Lise, c'est aussi une brave femme, quoi. Elle n'a pas eu de chance, elle travaillait pour une dame qui avait beaucoup d'argent, qui l'aimait bien, Madame de Foix, elle faisait la lecture, c'était sa gouvernante, quoi. Et cette Madame de Foix, bah, du jour au lendemain, la famille l'a foutue à l'hospice, plus personne s'en occupait, et plus personne n'a voulu que Lise l'approche. Donc il y a un moment où Lise, quand elle va mieux, elle dit ben, je vais aller la voir, et puis là, il y a des choses qui commencent un petit peu à. En fait, les deux périodes alternent, hein. Il y a des périodes où on suit Lise, d'autres où on suit Mathilde. Et c'est vrai que chez cette Madame de Foix, où tout se passait très bien, et ben, c'est produit un drame, quoi.
Oui, il y a des secrets qui sont donc qu'on sous-entend, hein, parce que il n'y a pas de raison que dans une famille, une dame qui va très bien, on la mette dans une maison, hein, donc
C'est
est-ce
ça.
qu'on veut l'éloigner pour qu'elle sait peut-être des choses qu'il ne faut pas qu'elle dise, quoi.
C'est ça. C'est ça, en fait. C'est un peu un. Je dirais que c'est un peu un roman à tiroir, quoi, en quelque sorte. Peut-être plus que les autres encore.
D'accord. Voilà, bon, oui, donc c'est ça, oui, donc tu as fait plusieurs, ouais, il y a plusieurs étapes, hein, dans ce livre, hein, comme ça, ben, comme dans tous tes livres, hein, puisque on sait que ça tombe souvent, tu surprends un petit peu ton lecteur dans les dernières pages du livre, ce qu'il faut, hein, d'ailleurs, parce que si au début du livre, au bout de la 10e page ou de la 20e, lectrice ou le lecteur dit ben ça y est c'est comme ça, mais là non, ça va être plus compliqué pour trouver vraiment ce qui a amené Lise Leclerc à tuer ces personnes et Mathilde eh ben à chercher pourquoi sa maman a fait ça et puis on verra au long du livre ben, est-ce que avec Armand il va se passer quelque chose quoi.
Oui, finalement, ils vont se dépatouiller, et puis Armand va comprendre la vérité, et puis Mathilde aussi. En fait, ce que tu disais, et je trouve ça très juste, enfin, je ne sais pas si c'est réussi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, je lis beaucoup, hein, je t'avais expliqué une fois, Jean-Pierre, quand on discute à Arsac, parfois.
Oui.
C'est vrai que moi, je lis énormément, mais si au bout de la. Comme un film, si au bout de, allez, on va dire 10 minutes, 20 minutes, donc, ou 10 ou 20 pages, si c'est un roman, si je ne suis pas accrochée, je laisse. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi quelque chose qui est redondant chez moi. Il faudra peut-être que je change un jour de stratégie. Pour le moment, ça marche très bien au niveau éditorial, donc je changerai, mais il faut que j'accroche, quoi, tout de suite.
Oui, ben c'est un peu le but, c'est pas toujours facile, hein, c'est vrai. Parce que alors, quand on parle avec les éditeurs, je leur demande un peu des fois, mais comment vous faites, puisque vous en recevez des romans, vous en recevez sans arrêt. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, alors je sais pas si c'est franchement ça, mais quand on a lu déjà les 4 premières pages, il me dit, ben, on arrive à savoir si le livre va être bon ou pas. Alors là, je trouve qu'ils sont très très forts quand même. Parce que...
Mais je pense que c'est vrai par contre, parce que mets-toi un peu à leur place. Il y a des matins, ils arrivent, ils ont 30 manuscrits qui les attendent. Donc, moi je pense que si j'étais éditrice, c'est en tout cas, c'est comme ça que je suis en tant que lectrice, c'est ça. Hein, c'est qu'il faut pas forcément une écriture qui est trop alambiquée, trop littéraire. Moi je pense que aujourd'hui des écritures à la Balzac ou même à la Flaubert, c'est-à-dire des choses qui sont des chefs-d'œuvre, hein, Jules Romain, c'est un chef-d'œuvre quand on lit ce qu'il écrit. Sauf que limite on n'y comprend rien. Donc je pense qu'il faut que l'écriture soit abordable pour tous. Et qu'il faut une accroche tout de suite. En tout cas, moi, je serai éditrice, je crois que c'est ça que je rechercherai, même si, effectivement, des fois, moi, j'ai été taxée d'avoir une écriture un petit peu trop, comment dire, pas vulgaire, hein, mais à la portée de tous. À la portée de tous, quoi, voilà.
Oui, mais c'est un peu le but du jeu, hein, parce que il y a des gens qui aiment lire, donc là, ça pose pas de problème, mais ceux qui aiment un peu moins lire, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on veut leur dire, bon, bah, ils vont refermer le roman, hein.
C'est ça, c'est sûr, parce que quand il y a encore des auteurs comme ça, que moi j'adore, comme Camille Laurence et tout, mais parfois, ben, je lis 3 fois la même phrase. Et après, je comprends, je peux continuer, mais tu vois, ça, ça veut dire que c'est vraiment une lecture qui est laborieuse, quoi. C'est presque une démarche intellectuelle. Moi, je veux de la lecture rêve, évasion.
Oui. Alors aujourd'hui, dans notre invité de jeudi, on parle avec Florence Roche de son dernier roman, L'Orpheline des Sœurs de la Charité. On a compris d'entrée que c'est un roman qui va être très compliqué. Bien sûr, il faudra le lire pour savoir la fin de cette histoire. Là, t'en profites pour parler peut-être aussi un peu de des orphelins ou des orphelines. C'est jamais très simple quand on se retrouve comme ça dans un orphelinat, en plus avec le drame que Mathilde vit suite à ce qu'on a dit sur sa mère. On sait que c'est des gens qui sont... Alors parfois, justement, on pourrait dire que parfois il y a des choses qui se passent dans la vie où quelqu'un fait commet un crime, et puis quand on retrace sa vie, on dit tiens, ben celui-là il était orphelin ou il est abandonné par sa famille, donc il y a quand même un problème psychologique, et parfois on oublie ça.
C'est vrai. Et puis, ce qui est vrai aussi, c'est que, bien sûr, aujourd'hui, il y a des gamins qui sont orphelins, mais je dirais qu'aujourd'hui, pour être prof, il y a surtout des enfants qui, sont sortis de leur famille parce que malheureusement, la famille n'assume pas. Donc, ils sont placés en foyer. Mais par contre, là où la période où je situe Mathilde, là, donc on est en 1913, ouais, il y avait énormément d'orphelins. Hein. Les gamins étaient orphelins, mais c'est incroyable. Des gamins qui étaient abandonnés parce qu'ils n'étaient pas désirés, ou parce qu'à l'époque, eh ben, les gens ils mouraient d'une grippe, quoi. Enfin, c'est ça, hein. C'est impressionnant. Les orphelinats étaient pleins. Aujourd'hui, bon, il y a des foyers, malheureusement, hein, des gamins qui sont placés en famille d'accueil, c'est terrible. C'est peut-être encore plus terrible que d'avoir des parents qui finalement nous laissent tomber, quoi. Enfin, les laissent tomber, c'est souvent le sentiment qu'ils ont, ces gamins-là. Des parents qui picolent ou qui vont pas, ou enfin bon, il y a quand même pas mal de gamins qui sont passés en foyer. Ça fait énormément de peine parce que finalement on se demande si c'est pas pire, quoi, je sais pas. Je me suis posé la question quand j'ai fait le roman.
Oui, toi qui es dans le milieu donc de l'enseignement, hein, prof, alors tu sens bien qu'il y a des gamins que tu dois avoir qui ont des problèmes. Alors, peut-être, on ne sait pas trop ce que c'est, mais quand on les côtoie, puis peut-être qu'il y en a quelques-uns qui se lâchent de temps en temps, parce qu'on ne comprend pas. Il y a des fois des gamins qui ont des dispositions, mais bon, ils travaillent mal à l'école, ils n'ont pas envie, mais parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la famille.
C'est exactement ça. Quand tu as un gamin qui est doué, qui est en classe vraiment... tu sens qu'il est intelligent et tout, et puis soudainement les résultats lâchent, ou alors tu sens qu'il est plus là, ou alors tu vois qu'il pleure, ou et ben c'est ça. Alors bon, un coup sur deux, c'est un divorce, le gamin formé, maintenant c'est bon, on est au 21e siècle, bon après t'as divorce qui se passe plus ou moins bien, ça dépend si les personnes sont plus ou moins intelligentes, mais ça va. Mais par contre, il y a des gamins qui sont retirés de force à leur famille, et malgré tout, un gamin, même s'il est maltraité, c'est quand même toujours avec ses parents qui voudraient rester, quoi. C'est vrai, ça c'est horrible, hein, comme situation. Et c'est vrai que ça existe, hein, même les foyers au puits. Moi j'ai des copains qui sont éducateurs, et puis là, le dernier confinement, ça a été terrible, hein.
Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, là, il y a eu des gros problèmes, hein, d'ailleurs, qui ont été ressentis dans les familles, hein, parce que c'est vrai que... c'était difficile, hein, d'avoir les enfants toujours à la maison. Certains s'en occupaient, d'autres les laissaient tomber. Et puis voilà, quoi, je veux dire. On espère que ça ne va pas se repasser comme ça. Donc, l'orpheline des Sœurs de la Charité. Alors, pour revenir un peu sur Lise Leclerc, elle est donc envoyée au bagne. Mais bon, on va voir dans le roman. Bon, est-ce que Mathilde va retrouver sa mère, en fait?
Disons que j'ai voulu faire une fin heureuse, voilà, parce que dans tous les romans que j'ai pu écrire, c'était pas tout le temps le cas, et maintenant, bon, depuis que je travaille notamment avec Clarisse et Nodo, ça fait longtemps, hein, depuis que je suis passée aux presses, j'ai essayé quand même pour la retrouver aux presses de la Cité, elle m'a quand même souvent dit, tu sais Flo, les lecteurs et les lectrices, c'est comme quand tu regardes un film, hein, si tu fermes, si tu arrêtes la télé sur un film qui a été triste, tu es triste. Donc c'est vrai que l'orpheline de la Sœur de la Charité, la plupart de mes bouquins maintenant, même si parfois il y a des passages très durs, hein, parce que moi j'aime pas l'angélisme, hein, la vie c'est pas facile, il faut dire ce qu'il y a, on a plus ou moins du bol. Bon, Mathilde, elle a pas eu de bol. Donc c'est dur pour elle, mais elle a une fin heureuse, quoi.
Oui, hein, quand on dit qu'on est tous égaux, hein, c'est loin d'être vrai, hein, parce que on est hein, comme la chanson de Le Forestier, je crois, quand on est dans la rue, hein, bon, ben là, c'est plus compliqué que celui qui naît.
On est d'être né quelque part,
on va chercher le titre, c'est ça. Mathilde, hein, on va voir tout au long de ce livre comment ça se déroule, hein, comment elle va faire pour découvrir la vérité d'abord sur sa mère, et puis. Bon, ça retrace un peu la vie d'une orpheline, hein, dans un pensionnat, quoi.
C'est ça, il y a de ça aussi. Ou d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a des témoignages, moi je sais que, pas dans un orphelinat, mais dans un pensionnat, je sais que ma belle-mère, elle me raconte souvent qu'il y avait des bonnes sœurs qui étaient absolument infectes et qui, par exemple, un soir avaient poussé une petite gamine à remanger ce qu'elle venait de vomir. La gamine était malade, enfin des scènes comme ça absolument atroces, quoi. Et c'est vrai que les orphelinats, on n'est pas toujours assisté avec des gens qui sont sympas, quoi. Mathilde, elle est quand même entourée par des femmes qui sont bonnes, quoi, dans l'ensemble, quoi. Elle n'est pas maltraitée, elle n'est pas... Parce qu'il y a eu aussi des cas de maltraitance affreuse, hein, dans les orphelinats ou dans les pensionnats aussi. Moi, je vous dis, ma belle-mère, elle me disait que vraiment, pourtant, ça ne remonte pas très loin. Hein.
Oui.
C'était chez des bonnes sœurs, elles étaient vaches. Hein. C'était vaches avec les petites. Hein.
Oui, mais c'est vrai que oui, on a eu des échos parfois, oui, que ce n'était pas simple, hein, quand elles tombaient sur des. On peut dire des maîtresses femmes, hein, parce que c'était un petit peu ça, même si c'était des sœurs. On ne disait pas toujours que c'était la bonne sœur. Hein. Il y en a quelques-unes qui étaient assez violentes. Hein, mais bon, enfin, c'est une autre époque. En 1913, on est à la veille de la guerre de 14-18, c'était plus compliqué, comme tu disais. Hein, une fille ou une femme qui avait fauté, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Hein, une fille qui a un petit ou une femme qui n'est pas mariée, qui a qui met un enfant au monde, c'est plus du tout vu pareil. Mais en 1913, il faut rapporter le truc dans l'époque. Hein, c'était vraiment des bannis. Hein.
C'est ça, vraiment, elles étaient complètement bannies. Et puis, en ce qui concerne 1913, la date, je ne l'ai pas non plus prise au hasard, t'imagines bien, parce que finalement, bon, je n'ai pas du tout voulu rentrer dans les détails de la Première Guerre mondiale, parce que ça, je l'ai beaucoup traité, ça m'intéresse beaucoup, surtout côté arrière, justement, la vie des femmes pendant la guerre, tout ça, ça c'est plutôt la terre des Falgères ou Philomène Hénitien. Mais disons que on comprend bien qu'Armand, qui est fou amoureux de Mathilde, il va aller jusqu'à changer de matricule, pour sortir de cette famille où pourtant il a de l'argent, une villa, des domestiques, enfin tout ce dont on pourrait rêver, parce qu'il veut Mathilde, quoi. Donc, et ça s'est dû hein, pendant la guerre, effectivement, des décrochages de matricule et des gens qui avaient usurpé des identités pour mieux s'en sortir, pour... bon, on n'est pas tous des surhommes, hein, voilà. Et Armand, lui, il le fait, en fait, au détriment, on va dire, de sa fortune. Il s'en fiche, il est... Son amour pour Mathilde passe au-dessus de sa situation. Puis on sent bien que c'est un jeune qui est fils unique et qui n'a pas du tout envie d'être patron, puisqu'on le voit qu'il va toujours voir les ouvriers, les forgerons, qui boit des canons avec eux et qui s'entend super bien avec eux, et que son père est tout le temps en train de le ramasser, mais il ne soit pas familier avec les ouvriers, il arrête de leur serrer la main. Enfin, il n'est pas fait pour être patron, et je crois que ça aussi, j'ai voulu travailler là-dessus parce que. Ça me fait toujours penser à un personnage comme Louis XVI, par exemple, qui s'est enquillé la Révolution et qui a payé pour les autres, hein, pour les riquets. Il n'était pas fait pour être roi, il n'aimait pas être roi, et il s'enfermait à Versailles pour faire de la serrurerie ou de la ferronnerie dans son atelier. Il y a comme ça aussi des destins préconçus. On dit, voilà, la chance qu'ils ont, ben, c'est pas forcément peut-être une chance d'être le fils d'eux, et puis de devoir prendre telle ou telle succession, après tout, hein.
Oui, et puis l'amour, on va voir, est plus fort que tout, hein, parfois. Hein. Donc là, c'en est une preuve.
Oui, hein. Ouais, là, c'est vrai qu'il y a une jolie histoire d'amour. Ouais, c'est vrai.
Alors, quand on disait les... Bon, c'était les patrons de 1900, hein, donc c'était le patron, la caste des ouvriers. Bon, maintenant, on va dire que ça a un petit peu changé. Hein. Il y a des patrons qui sont très près de leurs employés. Hein. D'ailleurs, c'est en général dans ces entreprises que ça marche le mieux. Hein, parce que,
oui, c'est des entrepreneurs. Aujourd'hui, voilà. Je trouve que le mot patron n'a plus lieu d'être.
Oui, ça, c'est un petit peu dépassé. Hein.
Oui, c'est dépassé. Ouais. Après, quand on regarde quand même dans l'histoire de notre pays, il y a eu quand même des bons patrons, entre guillemets. Je veux dire, les frères Michelin, ils ont été très paternalistes, ils ont vachement protégé leurs ouvriers. Hein, sur Clermont, ils avaient leur maison, leur école, leur épicerie. Les filles étaient éduquées. Enfin, il y a dans certains courants aussi. Alors bon, c'était vraiment des esclaves là. Dans les courants, c'est différent. Enfin, des esclaves du travail. Mais n'empêche qu'il y a eu des patrons qui avaient une forme de paternalisme. Alors c'était bien sûr pour garder les gamins, avec les gamins descendent d'enfants. Hein. Mais voilà, ils offraient quand même le loyer, le charbon. Alors ça nous paraît dérisoire, ça restait malgré tout des gens qui faisaient du fric sur le dos de leurs ouvriers. Mais il n'y a pas eu non plus que des patrons. Enfin, moi, pour moi, les frères Michelin, c'était des bons patrons. Hein.
Oui. Alors il y a un livre dont j'ai parlé, mais je ne me rappelle plus du tout, où justement on évoque cela, les patrons, donc c'était, pour revenir un petit peu, j'ai plus tout dans la tête, mais finalement c'était les patrons d'avant Creusot-Loire, quoi. C'était, ouais, tu vois ce que c'est. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre, je me rappelle plus, je l'ai reçu, mais je me rappelle plus, où elle parle justement de ces patrons-là qui étaient déjà en avance sur leur époque, hein, qui ont monté de grosses affaires, mais qui étaient toujours très très près de leurs employés.
Et oui, mais je pense que c'était. Je pense que vraiment, ils étaient attachés à leurs ouvriers parce que d'abord, ben, sans eux, ils n'étaient rien. Et puis que quand ils avaient des bons ouvriers, il fallait les fidéliser parce que les gamins, après, rentraient en apprentissage. Et puis voilà, les frères Michel, c'est ce qu'ils ont fait.
Oui.
Mais après tout, ils étaient drôlement aimés, hein, par les ouvriers.
Alors, Laure Flynn des Sœurs de la Charité, Florence Roche, qui est avec nous dans cet invité du jeudi. Florence, bien sûr. On a fait un sommaire tour de ton roman, mais il faut dire qu'on ne peut pas aller bien plus loin, hein, parce qu'après, on ne peut pas dévoiler, hein, puisqu'il y aura une fin heureuse, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais quelle sera cette fin? Point d'interrogation.
Juste, peut-être, ce qu'on peut dire, c'est que Lise, si elle a tué, c'est que vraiment, comment dire, elle était obligée. Voilà, elle était obligée, quoi. Il y a des choses qui sont insupportables et qu'il faut venger. Voilà, c'est ça. C'est peut-être ce qui fait que d'ailleurs, elle est, même en tant que condamnée, elle est aidée. Elle est aidée par un jeune médecin, par des gens qui ont compris sa douleur. Enfin, voilà, il y a ça. C'est pas une criminelle dans le sang.
Ou on l'entend.
Ouais. Voilà. Je peux pas en dire plus.
Oui, non, non, mais c'est pour ça qu'on va. Oui, non, mais on va rester là sur ton livre.
Je vais balancer le truc, ouais.
Ouais. Bon, écoute, Florence, merci d'avoir été avec nous. L'Orpheline des Sœurs de la Charité, donc, qui est sorti très récemment, hein, il n'y a pas très longtemps qu'il est en.
Oui, début octobre. Ouais, donc là, voilà, ça, ouais. Il est en vente un peu partout.
Oui, on le trouve.
Librairie laïque. Ouais.
Comme voilà. On dit, dans toutes les bonnes librairies. Alors pour le moment, ça risque d'être un peu compliqué, mais bon. On va bien voir.
Il va y avoir des drives, hein. Je pense que Sonia, la librairie laïque, elle peut faire des drives. Il y a toujours possibilité de téléphoner.
Oui, voilà.
Il y a
toujours. D'accord.
Puis il y a quand même, la FNAC, ça reste quand même une ancienne française. Donc, quitte à commander parfois. Bon.
Nous, je vois ici aussi, il est déjà dans. Pour parler de Craponne à Craponne, au plaisir des mots, chez Viviane et Marie-Pierre, qui suivent de très près tout ce qui est les éditions, et en plus des gens de la région. Alors, ça c'est toujours ma dernière question. On sait que les auteurs sont très prolifiques, surtout Florence. Alors, est-ce que tu en as un sous le coude de nouveau ?
Alors, il y en a un qui est prêt. Qui va s'appeler La Source Maudite, qui va paraître prochainement. Alors, je pense d'abord en exclu chez France Loisirs et puis ensuite début octobre aux Presses de la Cité, ou inversement, parce que généralement ils paraissent dans les deux maisons d'édition. Mais en tout cas, voilà, il est prêt, il est corrigé. La Source Maudite, en fait, là, je me suis inspirée d'une légende, d'une source qui effectivement. Aurait caché une bête dans le Périgord, hein, ça se passe, une bête qui dévorerait en fait tous ceux qui étaient impies, qui venaient se baigner, qui avaient fait du mal, qui était une bête à la fois diabolique et qui à la fois punit les ceux qui ont péché, quoi, voilà. Et cette légende permet bien sûr à certains gars de commettre des crimes. Et voilà, et on parle là-dessus, c'est-à-dire que en fait, là aussi après il y a toute une histoire de famille, je me suis encore fait des labyrinthes et des secrets, des tiroirs un peu partout, mais disons que voilà, cette légende en fait, elle va être utilisée par quelqu'un pour se débarrasser d'un très vieux secret entre potes, on va dire, qui remonte à la guerre.
Ok. Et écoute, Florence, on te remercie d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir de t'écouter. Je dirais pas de soir, parce que ça devient compliqué en ce moment. Mais c'est déjà très sympa d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle, l'Orpheline des Sœurs de la Charité aux Presses de la Cité. Eh bien, on espère bon vent pour ton roman, mais on sait que maintenant, t'as de fidèles lecteurs et lectrices, que t'es vraiment rentré dans la littérature. Puis, en passant aux Presses de la Cité, t'as quand même pris une dimension supérieure.
Oui, mais il faut être persévérant, voilà, j'encourage tous les jeunes auteurs, il faut être persévérant, il ne faut pas écouter les esprits toujours négatifs, il faut persévérer, il m'a fallu presque 20 ans, regarde, si tu regardes Jean-Pierre, j'ai fait L'Homme muraillé en 1999,
ouais.
C'est, il y a des périodes où je me suis arrêtée un petit peu d'écrire et tout, mais en fait, rarement, hein, je voulais percer, quoi, et puis il y a un moment où, ça paye, quoi, hein.
Ok, il ne faut pas se décourager, hein. C'est comme dans la chanson, on a vu, on voit sortir des Brassens, des Brel, mais des Aznavour, il ne faut pas croire qu'ils sont sortis comme ça en claquant des doigts, ils ont fois 15, 20 ans de galère et puis un jour, ils explosent parce qu'on découvre leur talent, quoi. C'est un peu pareil pour les auteurs.
Voilà, après je pense pas que j'exposerai comme Amélie Nothomb ou comme moi.
Ah, on sait pas.
Bien d'accord. Mais
on sait pas.
Mes ventes progressent petit à petit. J'ai un lectorat qui se fidélise. Après, ce qui m'aide beaucoup, très honnêtement, bien sûr, il y a la radio et tout, et c'est les réseaux sociaux.
Ah, maintenant, oui, ça, c'est.
Vraiment.
Ça, c'est une autre génération. Malheureusement, c'est pas la mienne, mais bon, je dirais que
c'est... Ça permet quand même de toucher des gens qui ne sont pas que d'Auvergne.
Voilà, c'est ça. Oui, on touche un peu des gens différents, quoi. Ben, nous, un peu, c'est le cas avec Internet, quoi, puisqu'on diffuse.
Eh ben, oui.
Maintenant, on peut diffuser dans le monde entier, alors qu'avant, on était limité à une région, quoi. Voilà. Et c'est moderniste. D'un côté, il y a du bon, d'un côté, il y a du moins bon.
C'est
on y reviendra peut-être un jour dans un de tes romans.
Eh ben, pourquoi pas.
Écoute,
merci en tout cas à tous. Et puis, merci à toi, surtout Jean-Pierre. À bientôt.
Ah ben non, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Allez, salut Florence.
Salut.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, Florence Roche était notre invitée du jeudi pour son livre... L'Orpheline des Sœurs de Charité. Donc, vous savez que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Et on va se quitter avec Charles Aznavour. Charles Aznavour qui nous interprète Marie l'Orpheline. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.
Marie l'orpheline, Marie mon amour, contre ma poitrine viens serrer tes jours. Marie les angoisses, Marie déchirée, sors de ton impasse quand le bonheur veut t'adopter. Marie l'orpheline, Marie les tourments, laisse sur tes ruines courir le printemps. Marie la souffrance, Marie la douleur, viens chercher l'enfance au cœur de mon cœur. Laisse le bonheur allumer tes yeux, étouffer ta peur et mettre le feu au fond de ton cœur qui n'a jamais vu le ciel bleu. Marie sans famille, Marie délaissée, sors de ta coquille, chasse tes pensées, viens prendre racine là où la passion, Marie l'orpheline, veut t'offrir un nom. Marie l'orpheline, Marie crucifiée, en vain tu t'obstines à tout refuser. Marie la misère, surtout ne sois pas Marie cœur de pierre, quand le bonheur te tend les bras. Marie l'orpheline, accepte l'amour pour qu'il t'illumine et fasse qu'un jour Marie la détresse devienne pour moi Marie la tendresse éperdue de joie. Lave-toi d'hier, laisse-toi sécher par ces soleils clairs, par ces vents d'été, que d'un cœur ouvert l'amour propose à tes pensées. Marie, tout commence au jour de demain, et notre existence est entre tes mains. Sans toi, j'imagine que je ne suis rien, Marie l'orpheline.
Charles Aznavour et cette très belle chanson Marie l'Orpheline pour terminer notre émission invitée du jeudi. Florence Roche était avec nous pour parler de son dernier roman aux presses de la Cité, L'Orpheline des Sœurs de la Charité. Salut à toutes et à tous.